d'abord s'intéresser un peu à Simon et à comment il est arrivé à bosser sur l'identity. Si tu peux peut-être nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivé à la création de cette BD et de tout ce qui l'entoure.
Moi au départ j'ai une formation de scénario pour la télévision. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Donc scénario pour la télévision, et ma co-auteure Emilie, elle a fait du dessin animé, elle a fait des écoles de dessin animé. Et Mediantity, c'est né au départ comme un projet transmédia, parce que le sujet c'est l'identité numérique, l'identité en ligne, et très rapidement ça nous a intéressé de voir comment est-ce qu'on pouvait raconter une histoire qui tourne autour de ce thème en utilisant les différents médias. C'est-à-dire que notre identité en ligne, on va pouvoir la raconter d'une manière un peu spéciale sur Internet, un peu différente sur les smartphones, et de manière encore différente sur des supports physiques tels que la bande dessinée. Et petit à petit, on s'est dit que pour un sujet comme le nôtre, qui est un peu un sujet d'anticipation, en fait, ça parle de l'identité en ligne et de l'idée qu'on a tellement de données sur Internet, sur chacun de nous, que nos identités commencent à s'autonomiser et à agir sur le réseau hors de tout contrôle. Donc il y a des mutations médiatiques qui apparaissent, et des mutations médiatiques, ça va être des vidéos YouTube qu'on n'a jamais tournées, qui nous mettent dans des situations embarrassantes. Ça va être nos profils de réseaux sociaux qui interagissent entre eux sans le consentement des utilisateurs. Et ce phénomène touche tout le monde, aussi bien les célébrités que les anonymes. Donc on va avoir une espèce comme ça de récits catastrophes multi-intrigues, avec chacun qui va être face à son identité en ligne mutante. Et voilà, du coup, pour revenir au transmédia, c'était intéressant de voir quel rapport on avait à notre identité, mais vu que c'est une histoire d'anticipation, c'était assez compliqué d'imaginer, par exemple, le faire en série télé, qui est le milieu d'où on vient avec Émilie, et la bande dessinée, ça nous donnait à la fois la liberté de raconter ce qu'on avait envie, et la souplesse de pouvoir ajouter des petits éléments sur Internet ou avec la réalité augmentée par rapport à un support qui lui est physique.
Est-ce que tu te dis, série télé c'est compliqué, est-ce que tu n'as pas envisagé, je ne sais pas moi, une série web, des trucs un peu plus souples qui sont maintenant peut-être
Bon, après on peut rentrer là-dedans, mais c'est des questions de financement. Financer pour le web, c'est compliqué. C'est compliqué. Financer pour le web, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'économie. Oui, parce que la bande dessinée, voilà, il y a le support papier qui est... Voilà, la bande dessinée résiste plutôt bien dans le milieu de l'édition à la crise. Et c'est un modèle économique qui est simple, qui est connu, qui fonctionne. Quand on veut faire un projet transmédia, c'est souvent ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de modèle... ni sur le côté artistique, ni sur le côté économique. Du coup, c'est un petit peu du cas par cas. Et là, ça nous donnait l'assurance à la fois de pouvoir nous éclater en transmédia et puis de pouvoir financer le projet.
Il me semble que c'est la première BD de Jean qui est aussi, il avait eu un petit, mais qui est aussi étendue sur plein de supports. Parce qu'il y a déjà d'autres exemples.
Bon, c'est pas la première bande dessinée qui joue avec le numérique. Il y a, par exemple, chez le même éditeur, il y a 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu qui propose deux manières de rentrer dans l'univers complémentaire. Ouais. Voilà, c'est le.
Il y a d'autres BD où il y a autant de supports, tu vois, qui se divisent, qui est comme une hydre sur autant de
supports. La BD, peut-être pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais en tout cas en littérature ça se fait pas mal. Il y a pas mal de livres-jeux. Je pense à Tilliez, je crois, qui avait fait un polar où il y avait des énigmes à aller résoudre sur Internet et puis qui réagissaient avec l'histoire racontée dans le bouquin.
Est-ce que vous parlez quelques mots de l'intrigue proprement dite? Parce qu'il y a quand même, avant qu'on voit tous les autres médias, il y a quand même à la base une BD, une intrigue, ça reste une BD classique, quoi. On va parler du tournoi média après. Donc de quoi ça parle
Donc, comme je le disais, c'est nos identités en ligne qui mutent et qui agissent hors de tout contrôle. Et on commence ce premier tome sur un trader qui perd énormément d'argent un soir pour un ordre qu'il n'a jamais passé. Il est certain de n'avoir jamais passé cet ordre, donc il se demande est-ce qu'on a piraté son compte, qu'est-ce qui se cache derrière. Et à travers lui, en fait, on raconte Monsieur Tout-le-Monde surconnecté qui va devoir se détacher petit à petit de son identité en ligne et quel sacrifice il va devoir faire pour ça. Ça, c'est sur le premier tome. Il y a 4 tomes de prévu. Le prochain qui sort en fin janvier. Et on va continuer à suivre ce trader, voir qu'est-ce qui lui arrive, mais on va commencer à explorer d'autres univers médiatiques, parce que c'est ça qui nous intéressait dans cette thématique, c'est qu'on va pouvoir explorer énormément de choses. Dans le suivant, on va aller voir du côté des journaux people. Je disais que les célébrités... Il y a des journalistes aussi, ouais. Mais voilà, le milieu du journalisme, le milieu des journaux people, le milieu de la politique, voilà, on va essayer d'explorer différents univers autour de cette thématique.
Très bien. Donc, la base, c'est la BD, mais il y a aussi la version turbo-média de la BD. Alors, il faut expliquer aussi ce qu'est la version turbo-média, peut-être qu'on peut voir ce que c'est. Le mot, déjà, turbo-média, si tu peux nous dire...
Le turbo-média, ça a été inventé par un formidable storyboarder qui s'appelle Balak, mais qui est présent sur le festival aussi, qui travaille sur Last Man. Et il a eu une idée aussi simple que fascinante, c'était de changer l'espace de narration en numérique. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un espace de page, on est sur un espace d'écran. Et dans cet écran, c'est là que vont apparaître et disparaître les différentes cases, les différentes bulles. Et on va avoir du coup une narration comme ça, où on clique à chaque fois pour avancer. Dans le cas de Media Entity, rien n'est animé. Donc ça reste de la bande dessinée image fixe et texte. Et voilà. Et du coup, ça permet de jouer avec le lecteur. Parce que quand on lit une bande dessinée papier, on anticipe immédiatement la fin de la page ou sur la double page. Même inconsciemment, on le sent. Et là, en fait, on le place dans une vision comme ça sur un écran où on va pouvoir avoir des effets de rupture et surtout on va avoir un espace différent. Je vais avancer jusqu'à un certain moment.
On peut avoir de la mise en page aussi, on peut avoir du vrai suspense, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que quand il y a un effet de surprise, c'est vraiment un effet de surprise parce qu'on pouvait pas l'anticiper. Et puis il y a l'espace qui est intéressant. Là, voilà. Par exemple, là, on a le trader qui est en train de fuir de sa banque et il est poursuivi par des vigiles. Et donc, voilà, dans la chronologie où le lecteur reçoit les informations, on a une case en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite et en bas à gauche. Donc là, si on prend l'image telle quelle, à la fois c'est lisible, mais... ce qui est intéressant, c'est que là, le trader fuit et on symbolise cette fuite par le découpage des cases qui vont se placer à différents endroits. Et donc ce format, ça permet aussi de faire des split screens, ce qui n'est pas possible à faire ou très compliqué à faire en bande dessinée papier. Voilà, il y a des tas de nouveaux effets de narration de bande dessinée qui sont possibles et qui sont vachement intéressants. Et voilà, donc Media Entity se lit à la fois en papier, pour ceux qui préfèrent le papier, et en numérique avec une version nativement pensée pour le numérique. C'est-à-dire que c'est pas une adaptation du papier.
Alors justement, comment s'est passée la création? Est-ce que vous avez d'abord... Toi, quand tu as écrit ton scénar, tu l'as écrit pour la turbo-média ou pour des planches
Non, en fait, moi, quand j'écris un scénario de bande dessinée, je découpe pas les cases parce que je sais pas faire ça. Donc j'écris comme si c'était un scénario de télévision ou un scénario de cinéma. Donc ensuite c'est Émilie qui derrière va faire son découpage. Du coup on n'avait pas forcément de support de prédilection, mais ça nous intéressait d'explorer les deux. Et en fait on fait les deux en même temps, c'est-à-dire que quand Émilie fait ses dessins, elle sait à l'avance qu'est-ce qui va être différent, parce qu'il y a forcément des différences. On rajoute des cases ou on agrandit des cases sur la version bande dessinée. Sur la version papier, il y a des cases qui sont supprimées. Et c'est beaucoup de travail de préparation en amont et on fait les deux en même temps. En fait.
Ouais, c'est vrai, une gymnastique, quand même, il faut réfléchir aux deux trucs en même temps.
Ouais, c'est un petit peu schizophrène. Mais c'est intéressant parce que ça pose des questions de narration différentes quand on travaille sur la version papier. Voilà, il y a certains codes de bande dessinée à respecter. À la fin de chaque bande, on va essayer d'impliquer que le lecteur va revenir vers la gauche en bas. À la fin de chaque page, il faut donner envie de tourner la page. Qui ne sont pas les mêmes problématiques du turbo-média. Dans le turbo-média, on va plus penser où se trouve l'œil du spectateur sur telle image et comment est-ce que je l'oriente sur l'image suivante. Donc sur la bande dessinée, on est un petit peu comme ça à plat, et dans le turbomédia, on est plus en profondeur.
Niveau économique, alors la version turbomédia, elle est gratos en ligne, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Et tout le contenu de l'album est en ligne ou pas? Il faut acheter l'album pour avoir toute la première histoire? Comment ça se passe?
Alors tout le contenu bande dessinée de l'album est en ligne. C'est deux expériences de lecture différentes, mais sur la version papier, on a eu envie d'explorer la réalité augmentée. On va vous montrer ce que ça donne. En fait, il y a un cahier graphique à la fin avec différentes images, différents documents, et quand on va flasher les pages avec son smartphone ou sa tablette, à même le smartphone, il y a des éléments qui vont apparaître superposés. Alors, par exemple, là, ici, il y a des silhouettes. On voit des silhouettes noires ici. Et quand on va flasher la page, on va avoir plein de petites images de photos d'identité de personnes qui ont perdu leur identité. Quand on clique dessus, on a des vidéos témoignages de ces personnes qui ont perdu leur identité. Donc voilà, c'est une extension, on va dire interactive, mais qui vient pas couper la lecture de la bande dessinée. On lit la bande dessinée d'abord, on est lecteur, et ensuite on devient enquêteur. À explorer les dessous de ce gigantesque complot.
D'accord. Alors il n'y a pas que ça contre la version BD et Turbomédia. Il y a plein d'autres bonus. Alors, je vais les faire en parlant. Il y a le jeu de rôle.
Ouais, donc le jeu de rôle, on peut le télécharger directement depuis la bande dessinée avec la réalité augmentée. Et puis il est aussi disponible sur le site. Dans le jeu de rôle, on va pas raconter la même histoire que dans la bande dessinée. Dans le jeu de rôle, on va jouer une espèce de, bon, je vais vous montrer vite fait, une espèce de communauté souterraine d'individus qui ont perdu leur identité et qui vivent ou qui survivent hors du réseau. Donc on va avoir des missions dont le but est de faire tomber l'internet. Voilà, c'est les personnages qu'on voit là qui sont cagoulés, qui viennent enlever le trader pendant le tome 1, et on n'en parle pas beaucoup dans la bande dessinée, mais voilà, si on se demande qui c'est et si on a envie un petit peu d'explorer, on peut jouer au jeu de rôle. Donc jeu de rôle papier qui se joue sur une table avec du papier à l'ancienne.
Et tu as écrit aussi, tu avais déjà écrit des jeux de rôle?
Non, c'est assez nouveau, mais en fait ce qui est intéressant pour nous sur Mediantity, c'est que ça nous permet d'explorer toutes les formes de narration. Moi, c'est ça qui me passionne. C'était pas quelque chose à laquelle j'étais sensible, mais en fait, le dispositif de jouer autour d'une table, de suite, ça me faisait penser à une idée de communauté déconnectée. Et dans la bande dessinée, vu qu'on avait ça, voilà, on trouve toujours une manière de faire réagir le récit de l'univers avec les différentes formes de narration, dont le jeu de rôle.
Justement, c'est un truc qui est très intéressant, la façon dont le fond de la forme dans ce cas-là. Et moi, il y a un paradoxe qui m'interroge vachement, c'est comment... Alors, parce que le propos, je sais, on ne sait pas lequel il est. Est-ce que c'est la méfiance? Est-ce que c'est la... On sent qu'il y a une espèce de fascination et de répulsion de votre part par rapport à la technologie, en tout cas, à ce qu'elle implique.
Ouais.
Et en même temps, tu traites ça avec les derniers outils, tu vois, de la technologie. Donc, il y a une espèce de schizophrénie, alors intéressante,
ouais.
mais tu es face à ça, et quelles sont les précautions, quelle est ton attitude et...
Mais en fait, c'est vrai que ça me fascine à quel point on a besoin d'informations, on est avide d'informations. Pour moi, c'est une substance, c'est une drogue. L'information, on peut être addict aux séries télé, on peut être addict à une timeline Facebook, on peut être addict à des clips sur YouTube. Et moi, ça me fascine. Je peux tomber des fois dans certaines addictions, d'addiction d'informations. Et Mediantity, le fait d'explorer aussi bien le jeu de rôle déconnecté que la réalité augmentée ou les jeux sur réseaux sociaux, c'est plus pour explorer la question que, enfin, c'est pour trouver une réponse, mais je l'ai pas à ce stade-là. À ce stade, je l'ai pas.
D'accord. Non, mais c'est intéressant d'utiliser les outils pour parler justement de faire la pub sur Facebook de Mediantity, parce que Mediantity, la boîte dans l'œuvre, et c'est une espèce de Facebook en quelque sorte.
Ouais, en fait, sur Facebook, on a commencé par faire par diffuser les épisodes Turbo Média, et on s'était dit on peut pas passer, on n'est pas sur Facebook à titre personnel, mais on se disait qu'on pouvait pas. Il y a une page Média Entity. Oui, à titre personnel.
En tant que Simon et Émilie, d'accord.
Enfin, j'ai dû créer une page pour créer la page Média Entity, mais je ne m'en sers pas, elle est complètement vide. Mais on se disait qu'on pouvait pas passer à côté de Facebook vu qu'on parle aussi des réseaux sociaux. Et la seule manière qu'on a trouvé, c'était de mettre ça en scène. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on va réfléchir à un support, on va essayer de le mettre en scène de manière cohérente par rapport à l'histoire. Du coup, il y a un des personnages qui jouait le lanceur d'alerte sur le Facebook. Il avait fait un Scoop-It. Scoop-It, c'est un service qui permet d'agréger des informations. Et voilà, il essayait d'alerter l'internaute sur les dangers de l'identité en ligne, et il recueillait comme ça tous les articles, les expériences qui parlaient de ça.
Il y a aussi un truc qui est particulier, c'est que tu es obligé de jouer le rôle de ton personnage de manière numérique, quoi.
Oui. Il faut que le personnage soit crédible dans le fait de le faire. Enfin, dans la bande dessinée, il y en a qui sont complètement paranoïaques, mais il y en a qui vont au contraire y trouver quelque chose d'intéressant pour leur vie, d'avoir une identité en ligne. Et le personnage qui est entre les deux, c'est le personnage de Willem, du clochard, qui est sur la couverture. Mais je vais pas tout vous spoiler, vous lirez la bande dessinée.
Qui fait penser à Alan Moore, est-ce que c'est voulu ?
Oui, tout à fait. Mais en fait, pour tout dire, en fait, l'idée de Media Entity, c'est parti d'une simple phrase d'Alan Moore qui disait « L'accélération de l'information, on ne peut pas l'arrêter. Si on la mesure, on peut regarder combien est-ce qu'il y a eu d'inventions, par exemple, à l'époque de l'âge de fer. Il y avait un certain nombre d'inventions. 1000 ans après, il y en avait deux fois plus. 500 ans après, il y en avait deux fois plus. Et il disait, entre 2012 et 2017, on va échanger deux fois plus d'informations chaque milliseconde que autant d'informations qu'on a échangées depuis les débuts de l'humanité. Et il disait, cette accélération de l'information, si on compare l'information à de la chaleur et la culture à de l'eau, un truc qui serait linéaire, eh ben, la chaleur va faire évaporer la culture et on va rentrer dans une ère d'imprédictabilité. On va plus pouvoir prédire l'avenir.
Bon, il parle de la singularité.
Il parle de la singularité, ouais, tout à fait. Et dans l'histoire, cette idée de singularité, ce sont nos identités en ligne qui prennent vie et qui ont une vie propre. Et voilà, on change d'échelle dans l'information.
Très bien. On a parlé de BD, de transmédia, de jeux de rôle. Il y a aussi un truc assez rigolo, c'est les jeux de piste, c'est-à-dire des jeux de recherche comme dans des événements, comme dans des festivals ici. Alors, il n'y en a pas ici, mais il y en a eu, tu peux nous raconter, peut-être il y en a eu à Angoulême, il y en a eu...
Oui, il y en a eu un à Angoulême. C'est pas là. Alors, tout d'abord, on avait fait des petits jeux de piste à chaque diffusion d'un épisode Turbo Média, où Willem nous envoyait des mails. On pouvait s'abonner à une newsletter et il nous envoyait des mails en nous donnant une petite mission pour débloquer chaque épisode. Par exemple, il y avait un mot de passe caché dans la bande-annonce. Donc, quand on avançait image par image sur YouTube sur la bande-annonce, on pouvait voir le mot de passe et ouvrir l'épisode. Dans l'épisode 2, qu'est-ce qu'on avait fait? Dans l'épisode 2, on avait envoyé un son. Willem avait envoyé un son qui ressemblait à ça.
Très agréable.
Je le laisse combien de temps? Et il nous expliquait comment décoder ce son. Alors, ce son, cette technique, c'est utilisé par les radios amateurs pour s'envoyer des images sous forme sonore. En fait, chaque couleur est codée par une fréquence et quand on passe le son dans un logiciel de décodage, ça donne... Est-ce qu'elle est là, la vidéo? Voilà, on a l'image qui apparaît. Et sur cette image, il y avait évidemment à la fin le mot de passe qui permettait d'accéder à l'épisode. Donc voilà, Willem, il était là en fait pour sensibiliser les gens à la cryptographie, à comment protéger ses données. Et voilà, on s'est beaucoup amusé comme ça à jouer avec les internautes pour les faire rentrer dans l'univers d'une manière un peu, où ils sont partie prenante du processus. Et donc ça, c'était les jeux de pistes sur Internet. Et on s'amuse aussi à essayer de faire des jeux de pistes dans la vie réelle. Donc à Angoulême, on avait placardé des affiches de gens qui avaient disparu, donc qui avaient perdu leur identité. Et on encourageait, c'était en partenariat avec un site internet qui s'appelle Esprit BD et qui avait un stand à Angoulême. Donc on encourageait les gens à aller lire la bande dessinée. Et à la fin, il y avait Willem qui leur disait, pour savoir qui sont ceux qui ont enlevé Eric, passez-moi un coup de fil, demandez ma business card au stand. Donc on avait cette petite carte avec un numéro de téléphone. Et quand on appelait Willem, on tombait sur lui et il nous indiquait où se trouvaient les antimédias. Et en fait, il se trouvait dans le Festival Off, où quand on se présentait à ce stand, on avait la réponse. Donc là, c'est tout plié, donc vous ne pouvez pas voir quelle est la réponse. Mais voilà, dans un prochain jeu, je vous encourage à venir jouer avec nous. Et puis comme ça, vous
les anti-A, ça m'a fait penser au nom A de Van Vogt, c'est aussi une référence,
ouais. Ouais, oui, c'est une référence. Ouais. L'idée des anti-A, c'est qu'ils ont perdu leur identité. Et... ils ne veulent plus être identifiés à ce que l'on dit d'eux. Et c'est un petit peu la sémantique générale de Van Vogt, donc dans les romans Le cycle des non-A. Et donc oui, c'est une référence. Et puis le A avec une barre au-dessus, c'est une notation mathématique qui dit tout ce qui n'est pas A. Donc ils disent we are not anarchists, nous ne sommes pas des anarchistes. Autrement dit, tout ce que vous pensez que nous sommes, c'est ce que nous ne sommes pas.
Très bien. Il y a aussi un rapport avec les Anonymous, j'imagine.
Alors c'est marrant parce qu'on avait commencé ça, de choisir le logo A, tout ça avant les Anonymous, mais ça vient nourrir l'univers évidemment.
Il y a aussi des nouvelles au format EPUB, c'est ça?
Ouais, alors ça c'est pas encore fini.
C'est pas encore
mais,
fini.
Mais
ouais.
C'est en cours.
C'est un projet.
Ouais, c'est en cours. Là c'est juste un plaisir personnel. C'est pas beaucoup connecté à voilà, il y a pas de dispositif comme pour le jeu de rôle, mettre en scène une communauté. Là, c'est vraiment un plaisir personnel d'avoir envie d'explorer l'univers autrement que graphiquement, mais avec les mots. Mais voilà, ça sera diffusé.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose après?
Non, on a bien fait le tour.
Non,
on a bien fait le tour.
Alors, j'ai une question parce que tout ça, c'est vous deux qui maîtrisez tout, qui faisiez tout avec un peu d'aide, j'imagine. Mais en tout cas, c'est toi qui dirige vraiment l'univers. Il y a pas mal de trucs qui se montent en ce moment. Il y a eu notamment aux États-Unis une web-série, enfin une série par Neil Stephenson, David Prine, des grands auteurs de SF qui proposaient une série à suivre comme ça de Mongoliad, ça s'appelait, où les lecteurs pouvaient participer. Au bout d'un moment, il y avait des forums et ils pouvaient créer leurs personnages, ils pouvaient proposer des textes, ils pouvaient... C'est peut-être pas le but du truc, mais est-ce que tu as des envies d'ouvrir les choses ou pas, toi? Peut-être à des autres auteurs, pas forcément à des lecteurs.
Mais en fait, le projet, il a été publié sous licence Creative Commons. Donc la licence Creative Commons, ça permet aux lecteurs de copier tous les éléments de l'univers, à part la bande dessinée, évidemment. Enfin, à part la bande dessinée papier. Mais le Turbo Media, il peut récupérer les images, il peut en faire ce qu'il veut. Donc copier, modifier... et redistribuer sous condition que ça ne soit pas redistribué commercialement. Et c'est par exemple sur la réalité augmentée de la bande dessinée, il y a certaines cases là quand on flash, il y a un point d'interrogation parce que quand on clique dessus, on est renvoyé vers un formulaire qui propose de poster sa propre vidéo, son propre témoignage. De personnes sans identité. Et la licence Creative Commons, c'est pour laisser la possibilité à ce que ça soit participatif. Donc ça nécessite de mettre en place des forums, des choses qu'on n'a pas trop forcément le temps de faire en plus de la création de tous les contenus, mais on avait envie de laisser cette possibilité là et puis c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à développer.
Est-ce qu'il y a eu des idées que vous n'avez pas pu faire faute d'argent, de temps, d'autres médias, Est-ce que vous avez abandonné des trucs
depuis qu'on s'est fixé sur la bande dessinée? Pas vraiment, parce qu'on sait quelles sont nos ressources. Et du coup, les idées qui viennent, de suite, elles sont. On se dit, est-ce que c'est gérable à faire ou pas? Donc depuis qu'on travaille sur la bande dessinée, non. Par contre, avant ça, on avait travaillé avec Orange quand c'était pas encore une bande dessinée, quand c'était juste un projet transmédia dont on ne connaissait pas le support. Et là, on est un peu parti dans tous les sens, des applis Facebook pour muter ton copain, voilà, des choses comme ça qui seraient très très compliquées à faire à la fois techniquement et juridiquement. Donc il y a des idées qu'on a sous le coude qui sont compliquées à faire, que peut-être qu'on reviendra dessus un jour ou l'autre, mais voilà, on essaie toujours de faire en sorte que ce qu'on propose, on soit capable de le faire, ouais, tout seul.
Quel est l'avenir de Media Entity? Alors, au-delà des 4 tomes, est-ce que tu as déjà des idées d'agrandir l'univers ou...
Bah déjà, les 4 tomes, ça sera un gros travail. Et puis, avec tous les contenus qu'il y a en plus, ça fera pas mal. On aura raconté une bonne partie de l'histoire. L'histoire sur le trader se finira à la fin des 4 tomes, mais on laisse la possibilité, si ça fonctionne, de continuer à explorer cet univers, parce que le rapport qu'on peut avoir avec notre identité en ligne, ben plus j'y réfléchis et plus je m'aperçois que c'est infini, et il y a toujours des nouvelles idées d'intrigues et d'histoires à faire vivre dans cet univers.
Sur un plan plus personnel, toi, tu as d'autres projets BD ou autres?
Je peux pas trop en parler, mais vu que je suis scénariste, moi j'ai plus de temps que la dessinatrice qui elle est à 100% là-dessus.
C'est d'autres projets transmédia ou c'est que des projets BD?
Non, alors pour le coup, ça nous a un petit peu vacciné du transmédia. Non, s'il y avait d'autres histoires à raconter, j'aimerais bien faire des choses peut-être plus simples.
Que BD, quoi.
Voilà, plus simple, pas forcément, hein, c'est pas péjoratif, mais avec une somme de travail moins importante peut-être.
On peut comprendre. Est-ce que il y a des questions parmi vous? Ou est-ce que toi tu veux rajouter des trucs qu'on n'a pas abordés?
Non, après je peux faire tourner la tablette et la bande dessinée si vous voulez tester la réalité augmentée.
Ouais, ça va.
Mon éditeur me demande de passer la bande-annonce.
Ah ben ouais. Je te donnerai plus la parole après.
Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. C'est vous.
Vos amis?
Les amis de vos amis.
Et plus d'un milliard de leurs amis.
Qui vivent leur vie à travers Internet.
À mettre à jour leur profil.
À mettre à jour leur profil.
À le remplir d'infos.
À
rendre leur média entité toujours plus vulnérable aux mutations. Une mutation médiatique est une
distorsion de votre identité en ligne.
C'est une vidéo qui apparaît sur YouTube.
Ou votre profil qui génère de nouvelles images de vous.
Pourtant,
rien de tout ça
n'est vrai. Et voilà.
Vous êtes dans la merde.
Dommage.
Votre média entité a pris vie et agit maintenant toute seule sur les écrans.
Votre réputation est incontrôlable.
Quel dommage.
Et que vous soyez une célébrité
ou un parfait inconnu,
vous ne pourrez pas y échapper. Car cette histoire, c'est la vôtre.
Question, c'était est-ce que ça a rencontré le succès que vous espériez, à la fois critique et populaire? Est-ce que ça, tu penses qu'il y a un succès du fait que c'est transmédia? Est-ce que c'est vraiment une niche ou est-ce que ça vraiment touche tout le monde?
Alors, je pense pas pouvoir encore répondre à la question. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, vu que c'est notre premier album, on est plutôt très content de l'accueil qui a été fait par sur Internet. On en a un petit peu parlé. Sur le lectorat papier, c'est intéressant de voir que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens vont venir pour des raisons différentes. C'est sur la bande dessinée, ça va être vraiment les fans de, là en tout cas c'est un polar, donc de bande dessinée polar peut-être l'anticipation transparaît pas encore, donc c'est peut-être quelque chose qui va venir. Mais sur Internet, on est très content du nombre de lectures du Turbo Média. Et ensuite, c'est sorti il y a 2-3 mois, donc je ne sais pas trop encore à quelle sauce on va être mangé. Mais là où on est content, c'est qu'on sait qu'on va sortir 4 tomes et que ça peut aussi laisser le temps à la fois pour nous de bien développer la narration pour montrer ce dont on parle, et puis voilà, la série de s'installer.
Au-delà du truc du transmédia et tout ça, il y a quand même à la base, j'ai pas d'action chez Delcourt ou quoi, mais c'est quand même une sacrée bonne BD, aussi bien au niveau scénar que dessin, que mise en... Parce que vous avez vu sur le Turbo Média, c'est vraiment très très bien. La BD, c'est une expérience différente. Et je pense que les gens qui achètent la BD seuls sont pas déçus du contenu. C'est quand même la base, je pense, du truc. Ouais. Il y a quand même une vraie BD qui offre...
Oui, ça peut se lire comme une bande dessinée, voilà. Tout à fait classique. C'est simplement qu'on donne la possibilité d'aller plus loin si on veut. Mais le lecteur qui n'a pas du tout envie ou qui n'a pas de smartphone ou de tablette, il peut tout à fait suivre l'histoire en lisant la bande dessinée,
voilà, on a
comme d'habitude.
Son argent, et la BD est bien, elle a été bien accueillie d'un point de vue critique, sans parler de tout le contenu autour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, je voudrais savoir, pour vous, est-ce que c'est plus important la narration, l'histoire ou l'univers? Parce que souvent dans le transmédia, on a un élément de base comme là, la BD, qui développe une première histoire, et puis les autres éléments relèvent plutôt du bonus d'expansion de l'univers, mais ne sont pas forcément nécessaires par rapport à une narration principale. Donc je voulais savoir comment vous pensiez ce rapport-là.
Les deux, mon capitaine. Parce que en fait, au départ, c'est assez conceptuel, cette idée d'identité en ligne qui mute et qui échappe à notre contrôle. Et on a mis beaucoup de temps depuis la formalisation de ce concept à arriver à des intrigues, à des personnages. Donc maintenant que le concept est fait, ça a été la graine, ça a été la matrice de tout, mais maintenant la seule chose qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on raconte, c'est quels sont les personnages et quelles sont les intrigues, et ce quel que soit le support.
D'autres questions? T'as plus rien à...
Ceux qui ont envie, je laisse la tablette là avec la bande dessinée,
ouais,
vous pouvez venir tester.
Merci beaucoup Simon.
Ben, merci.
Puis, je vous invite à aller sur le net, à acheter la BD. T'es en dédicace
Maintenant. Enfin non, dans une demi-heure. Ou...
15h30, voilà.
Dans une demi-heure.
Donc allez le voir. Merci Simon.
Merci.
Merci à vous.